Si vous avez vos Bibles, est-ce que je peux vous demander de les ouvrir au livre de Jean, chapitre 2. On va regarder un passage qui peut-être vous semble très familier, vous le connaissez déjà très bien, peut-être pour certains il est plutôt nouveau. Alors on va prier ensemble et après creuser un peu pour voir ce que Dieu va nous donner à travers ce chapitre. Jean chapitre 2. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : Ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit : Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs : Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit : Remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela le marié et lui dit : Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Prions ensemble. Père, alors que nous venons à cette scène incroyable qui a été écrite dans l'évangile de Jean, je prie que ton Esprit Saint puisse nous enseigner, que ton Esprit Saint puisse prendre cet événement qui a été inscrit ici et le rendre vivant pour nous. Aide-nous à voir pourquoi tu as cru que cet événement était tellement important qu'il a été inscrit dans ta parole pour que nous puissions le lire aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Que ton Esprit, Seigneur, nous enseigne ce matin. Au nom du Sauveur ressuscité, Jésus-Christ, je prie ceci. Amen. Alors, Jésus et son tout premier miracle. Son premier miracle. Regardons son premier miracle ensemble. Jésus est invité à un mariage et sa maman est là, Marie. Et Jésus est là et ses disciples sont du coup invités aussi. Certainement que cela a été un ami ou du moins quelqu'un de la famille proche, quelqu'un de la famille proche ou bien un ami proche de la famille, voilà. Parce que quand on pense aux personnes que l'on invite à une famille, on invite les personnes qui sont proches. Et il faut que ça soit quelqu'un de très proche pour qu'ils invitent les amis à la dernière minute. Et Jésus et ses disciples arrivent à ce mariage. Il y a des gens qui pensent que peut-être que Marie était encore plus assez proche des mariés, qu'elle était une des personnes qui aidait à ce mariage. Est-ce que vous avez déjà remarqué, au mariage, il y a toujours des personnes qui aident, mais qui ne sont pas officiellement aidants. Il y a toujours les amis proches ou la famille qui est juste là, a toujours besoin, qui est là pour vérifier que tous ceux dont on aurait pu avoir besoin est disponible. Ils sont toujours prêts à aider. Il y a des gens qui pensent que Marie avait peut-être ce rôle. Parce qu'elle remarque qu'il n'y a plus de vin. Et non seulement cela, elle est connue, elle est assez connue que les serviteurs l'écoutent quand elle donne des ordres. quand elle leur dit quoi faire, ils les écoutent, ils l'écoutent elle. Alors elle devait avoir quand même une certaine relation avec ces personnes-là, ou du moins avec le mari. Et le vin s'écoule, il n'y a plus de vin, ce qui est une tragédie, j'imagine. Vous rigolez, mais il faut comprendre, la culture. J'imagine que je vous ai déjà raconté l'histoire de quand j'étais en mission dans le Moyen-Orient, et j'étais dans une famille et j'étais assis par terre et ils continuaient à me servir et moi je continuais de manger et je finis mon assiette à chaque fois parce que je suis américain et à chaque fois on continue de me remettre à manger sur mon assiette. Et je commence à ne plus sentir mes jambes parce que je suis assis par terre et mon ventre, j'ai l'impression qu'il va exploser parce que je continue à manger, et continue de remplir mon assiette. Et enfin, le missionnaire à côté de moi me dit « Pose ta fourchette maintenant. » Alors je pose ma fourchette et j'ai réalisé plus tard, le missionnaire m'a expliqué que dans cette culture-là, la pire chose à faire, la pire chose qui pourrait se passer, c'est que les gens n'aient plus, que les invités n'aient plus rien sur leur assiette à la fin du repas. Peut-être qu'ils étaient en train d'avoir des amis qui vendaient leurs habits pour qu'ils puissent acheter encore à manger pour le gars américain qui mange et mange et mange et mange. Parce que ça serait une horrible et terrible honte de n'avoir plus rien à manger. Et dans ma culture, ce ne serait pas la même chose. Mais dans leur culture, ça, ça aurait été la pire des choses. Ça aurait été dévastateur, en quelque sorte. Et dans cette histoire ici, quand il a dit on n'a plus de vin, oh, ça fait rien, donnez-leur un peu de coca, tout ira bien. Non, là, c'était vraiment la fin du monde, quoi. C'était affreux. Ça aurait amené une honte incroyable à cette famille, à ce couple. De n'avoir plus de vin, ça aurait été vraiment... Mais les gens en auraient parlé pendant des années et des années. Et Marie étant celle qui était devant et vérifiant que tout était bon, il dit à Jésus, « Il faut que tu fasses quelque chose, Jésus. Ils ont plus de vin. »
Now, there are some people who think that maybe Mary.
Il y a des gens qui pensent que Marie va voir Jésus parce qu'il lui demande de faire quelque chose, parce que Jésus est son fils. Et que son mari, ces gens-là voient que dans les évangiles, il n'y a aucune mention du mari de Marie, de l'époux de Marie, parce que peut-être qu'il est décédé, et que Jésus est l'homme le plus âgé dans la famille. Il a toujours été le fils aîné, qui était toujours prêt à aider, toujours à un peu prendre la relève de son papa, qui était là pour respecter sa maman, prendre soin d'elle après le décès de son mari. Alors quand Marie demande quelque chose à Jésus, il aurait fait quelque chose de toute façon pour aider sa maman. Jésus, ils n'ont plus de vin. Fais quelque chose, vite. Va acheter du vin, fais quelque chose. Mais la plupart des personnes, et moi je suis plutôt d'accord avec cette deuxième partie, pensent qu'il y a autre chose qui se passe ici. Marie est dans une situation vraiment très particulière. Elle sait, d'une manière que personne d'autre dans le monde entier ne sait, qui est réellement Jésus. Parce que sa grossesse était miraculeuse. Et elle a vécu pendant 30 ans avec la connaissance, le savoir de ce miracle.
It's interesting to me how good some people are at
math. Pour moi, c'est vraiment intéressant de savoir combien il y a des gens qui sont vraiment doués pour les mathématiques. Vous savez, ils rencontrent Marie et Jésus et c'est Jésus, c'est l'anniversaire de Jésus. Quand est-ce que tu as épousé Joseph? Et très rapidement, elle calcule. D'accord. Tout de suite, les langues. Et partout où allait Marie, il y avait toujours un peu de chuchotement. C'est elle là-bas. Elle s'est mariée après avoir été enceinte. Vous savez, ils ont déjà couché ensemble. Vous savez, ils ont... Et alors, Marie était toujours... un peu dans cette position de devoir se défendre. Mais en fait, non, on n'a pas couché ensemble avant d'être mariés. Non, c'est Dieu qui m'a rendue enceinte. C'est drôle, Marie, merci beaucoup. 30 ans comme ça, elle a vécu avec cela. 30 ans. Elle a vécu en connaissant, en sachant que Jésus n'était semblable à personne d'autre dans le monde. Et là, on voit dans Jean 1 que Jean le Baptiste est venu, il a dit des choses incroyables concernant le Messie. Le voilà, il est là-bas, le Fils de Dieu. Le voilà, celui dont les sandales je ne suis pas digne de défaire. Le voilà, l'agneau qui ôtera le péché du monde. Là-bas, celui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. Et Marie voit tout cela. Il a commencé aussi à s'entourer de disciples. Il a commencé le processus. Est-ce que vous connaissez un parent qui n'aime pas voir son enfant réussir dans la vie? Franchement, vos enfants s'intègrent dans une équipe sportive, forcément vous voulez qu'ils gagnent. C'est mon enfant là-bas, c'est mon fils, regardez ce qu'il a fait. Marie sait qui est Jésus réellement. Et elle a tellement hâte qu'il se montre. J'imagine juste, Jésus, vas-y, ils ont plus de vin, vas-y, fais quelque chose. Ça y est, le moment est venu. Ça fait 30 ans que j'attends ce moment, ça y est. Est-ce que vous ne sentez pas juste l'excitation de Marie par rapport au fait qu'enfin c'est l'heure? Et là, Jésus il dit, femme,
woman,
Jésus était sans péché. Il n'a jamais, jamais, jamais péché. Imaginez ça. Un des commandements, des 10 commandements, honorez votre père et votre mère. 30 ans. Pendant 30 ans, il a toujours, toujours respecté et honoré son père et sa mère pendant 30 ans, non-stop. Combien de parents pourraient lever la main et dire oui, mes enfants m'ont toujours honoré pendant tout ce temps-là. Maintenant, c'est le début de son ministère et sa maman vient avec une demande. Ils n'ont plus de vin. Et il ne dit pas, maman. Il dit « femme ». Combien de femmes seraient un peu choquées si votre fils disait une chose pareille? Je ne pense pas que c'était quelque chose de négatif qui rabaissait Marie. Il y a une manière de dire « femme » qui serait vraiment... pas une insulte, mais rabaissant. Ah, femme, va me chercher une autre bière. Voilà, ça c'est vraiment rabaisser quelqu'un. Je ne pense pas que c'est cette tonalité-là que Jésus a utilisée en parlant à sa maman.
But he is redefining the relationship.
Mais c'est vrai qu'il redéfinit sa relation à sa maman.
Marie,
tu n'es pas mon boss ni mon chef. Souviens-toi de qui je suis. Femme, tu es une femme. Je suis Dieu. C'est pas tout ce qu'il dit. Il dit mot à mot, femme, toi, quoi, toi et moi. C'est pas exactement du bon anglais. What you and me, c'est aussi un grec bizarre. Quoi, toi et moi. C'était une manière de parler. C'était une phrase qui veut dire plusieurs choses, qui pourrait vouloir dire plusieurs choses en fonction du contexte. Ça pourrait vouloir dire qu'est-ce qu'il y a entre nous ? Entre toi et moi, dans cette relation, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est notre relation ? Ça pourrait aussi vouloir dire pourquoi est-ce que toi, tu m'amènes dans cette histoire ? Pourquoi tu me mêles à quelque chose ? Moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec cette autre situation, cette relation? Pourquoi est-ce que tu m'amènes à entrer dans ce dilemme, ce problème? Ça pourrait aussi vouloir dire qu'est-ce qu'il y a dans notre relation, qu'est-ce qu'il y a entre nous qui te fait penser que tu peux m'impliquer dans cette situation autre? Pourquoi est-ce que tu m'inclus dans ce problème? Pourquoi est-ce que tu me demandes? Tu demandes ça de moi. Et puis il continue et il dit: mon heure n'est pas venue.
It is not time yet.
Il n'est pas encore l'heure. Son heure, son moment, son temps, c'est une phrase que l'on voit tout au long de l'évangile de Jean qui parle de l'heure de sa glorification, du moment où il accomplira son objectif sur terre, le moment pour lequel il est venu sur terre, donc la croix. Marie, ce n'est pas encore l'heure pour la grande chose qui va arriver plus tard. Ça vient, mais c'est plus tard, femme. Mon heure n'est pas encore venue. Quelque part, il la remet un peu à... Il remet les points sur les i, en quelque sorte. Il lui dit, femme... Moi, je suis Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je suis venu avec un objectif en particulier et je suis là pour faire la volonté du Père céleste. Et je vais l'écouter, lui, et faire ce que lui veut que je fasse. Ne pense pas parce que toi, tu as eu un rôle particulier dans ma vie que tu peux me dire quoi faire maintenant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis venu pour être ton sauveur. Marie dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Alors, qu'est-ce qu'elle attendait, Marie, de tout ça? On ne sait pas. Honnêtement, le texte ne nous dit pas ce qu'elle attendait à ce moment-ci de la soirée. Autre que Jésus allait certainement faire quelque chose. On ne sait pas quoi. Marie a amené ce problème à l'attention de Jésus. Elle était un peu remise à... Peut-être qu'elle était trop... Elle avait trop de zèle, elle a fait preuve de trop de zèle. Peut-être qu'elle a présumé des choses qui n'étaient pas encore justes. Mais elle croit encore que Jésus va faire quelque chose pour ce couple. Peut-être qu'il va juste envoyer les serviteurs à chercher pour acheter du vin ailleurs. Il va faire quelque chose, en tout cas. Alors elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Jésus voit six grandes jarres de pierre. Et il dit aux serviteurs, allez remplir ces jarres d'eau. Alors ils les remplissent jusqu'en haut, jusqu'au bord, complètement. Et il leur dit après de prendre un peu de ce liquide et de l'apporter à l'organisateur du repas. Et quelque part, à un moment donné, l'eau se change en vin. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est une bonne question. On y reviendra. J'aimerais juste que vous pensiez ou réfléchissiez au à l'incroyable quantité de vin que Jésus a créé. Si on estime dans la partie petite de l'estimation, Chaque jarre aurait 100 bouteilles de vin et il y avait 6 jarres. Alors, j'ai peut-être pas des très bonnes mathématiques, mais 600 bouteilles de vin, c'est quand même énorme. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de vin. Non seulement cela, mais quand le gars, l'organisateur du repas, a goûté le vin, il était bluffé. Je connais plusieurs couples en France. Notre traductrice d'ailleurs aussi s'est mariée. Et je me souviens quand ils ont préparé leur mariage, et une des grandes choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été et ils ont goûté du vin. Parce qu'ils voulaient qu'il y ait le vin parfait pour leur mariage. Et chaque couple fait cela et veulent ce qu'il y a de meilleur pour leur mariage. Je pense aussi que certainement ce couple, à ce mariage-ci, avait fait la même chose. Mais quand le gars, l'organisateur du repas, goûte ce vin qui est venu de la part de Jésus, il dit, ah, attends, tout le monde d'abord sert le bon vin, et la piquette c'est pour après. Et ce vin-ci est mille fois meilleur que le premier. Mais qu'est-ce qui se passe là? Alors j'aimerais juste que vous réfléchissiez à la quantité de vin et à l'abondance du vin et aussi la qualité du vin que Jésus a créé et qu'il a produit dans ce miracle. Pourquoi est-ce qu'il choisit de faire cela? Pourquoi est-ce qu'il choisit ce miracle pour son premier miracle? Il est possible que c'est peut-être symbolique. Peut-être que c'est symbolique et il y a des grandes vattes de jarres de pierre et elles sont utilisées d'habitude pour les rites de purification chez les Juifs. Et ils voulaient faire très attention dans cette religion d'être propre au niveau de la cérémonie. Ils se lavaient les mains de manière particulière pour être purs, parce que peut-être qu'ils avaient touché quelque chose d'impur et qui les avait rendus pleins de péchés. Du coup, ils se lavaient les mains pour symboliser leur pureté. Et peut-être que Jésus, il regardait ces jarres et il s'est dit, « Ah, parfait, c'est parfait, je vais utiliser ces jarres de purification, utiliser l'eau purificatrice et la changer en vin. » Parce que le fait de se laver les mains de manière comme une cérémonie, et ça fait rien vraiment pour se laver du péché. Mais dans 3 ans, je vais prendre un verre de vin devant mes disciples et je vais dire, ce vin symbolise mon sang qui va vous nettoyer. Et ça ne sera pas seulement symbole, ça sera pas seulement une cérémonie, ça sera pour de vrai. Le péché sera réellement à travers mon sang effacé, effacé à tout jamais. Ça sera mon sang qui nous lavera complètement, qui vous lavera complètement, symbolisé par du vin. Donc peut-être qu'en effet, ce vin-là, c'est un peu une étape pour montrer ce qui va venir dans 3 ans. Mais je pense qu'il y a aussi des prophéties de l'Ancien Testament qui peuvent éclairer ce passage. Dans Isaïe 25, 6 à 9, il dit ceci. Sur cette montagne, le l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents pleins de moelle et de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations, et il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On dira ce jour-là, « Voici notre Dieu ». Celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve, c'est l'Éternel. C'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Je crois que Jésus a vu que c'était l'opportunité parfaite pour faire quelque chose que les gens qui comprenaient, qui connaissaient l'Ancien Testament auraient pu comprendre. C'était une abondance de vin d'une qualité supérieure à tous les autres vins. Et c'était pour montrer qui il était, qu'il était le salut. Et c'est pour ça que c'est vraiment bizarre la manière dont il a fait ce miracle. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? C'est son premier miracle. Qui l'a vu? Qui est-ce qui a réellement vu ce qui s'est passé? Les serviteurs? Au fond, dans la pièce du fond. Peut-être ses disciples aussi, on ne sait pas. C'est ces gens-là qui ont vu le miracle. Je crois que chacun d'entre nous, si on avait était l'organisateur de cette production, de cet événement-là, on aurait peut-être choisi de le faire un peu différemment. On aurait dit à Jésus que ça aurait été certainement plus avantageux que tout le monde voit ce qu'il était en train de faire. Ah, ils ont plus de vin. Ah, c'est un mariage, c'est parfait. Il y a des photographes, il y a des vidéographes. On va tous les mettre en ordre comme ça pour qu'ils puissent voir ce que tu vas faire. Excusez-moi, mesdames, messieurs, juste votre attention une minute, s'il vous plaît. Il n'y a plus de vin. Ça, c'est leur jour heureux. C'est votre jour heureux. Vous allez voir quelque chose que personne n'a jamais vu et dont on va parler pendant des années. Vous allez voir mon premier miracle, mesdames et messieurs. Alors, si je peux juste demander aux serviteurs d'apporter ces jarres de pierre, de les mettre, voilà, ici, comme ça, c'est très bien. Remplissez-les maintenant d'eau. Non, pas juste un peu. Remplissez-les jusqu'au bout. Maintenant, 6 personnes, voulez-vous bien des petites personnes? Oui, c'est ça. Venez, monsieur. Vérifiez bien qu'il y ait de l'eau jusqu'en bas, c'est ça? Oui, on voit bien que c'est juste de l'eau. Merci, monsieur. Très bien. Maintenant, regardez, ouvrez grand les yeux. Moi, je vais me mettre très loin et je vais monter et demander à quelqu'un qui a une coupe de venir chercher du vin dans ses jarres. Et oui. Et tout le monde a été émerveillé, tout a été capturé dans la vidéo. Vous voyez, c'est mon premier miracle, il y en aura beaucoup d'autres, mesdames et messieurs. Bien sûr, suivez-moi sur Facebook. Et mes disciples vont pouvoir vous vendre des CD, des DVD et des livres à la porte pour 5 euros de plus et je veux bien vous signer votre livre. Merci beaucoup. C'est ça qu'on aurait fait, nous. En tout cas, c'est ça qu'on aurait demandé à Jésus de faire si on était ses producteurs de com. Mais c'est pas ça qu'il fait. Il le fait presque en secret. Personne n'a su, presque. Les serviteurs juste le savent. Les disciples le savent. Pourquoi est-ce que Jésus a choisi de faire ça de cette manière-là? Je pense qu'il y a peut-être plusieurs raisons. Peut-être que la plus grande raison, c'est écrit dans Hébreux chapitre 13, que le mariage doit être honoré de tous. Ça, c'était vraiment une occasion incroyable, c'était un moment très particulier pour ce couple. S'il avait rendu ça public, il aurait un peu pris toute la gloire sur lui-même. Et c'est pas comme ça qu'il est, Jésus. C'était la journée particulière pour ce couple, pas pour Jésus. Et pour moi, ça en dit beaucoup, ça en dit long sur qui est Jésus. C'est pas quelqu'un qui va prendre des autres. Il honore le mariage. Il ne va pas voler quelque chose à quelqu'un. Les gens vont avoir 3 ans pour apprendre à connaître qui je suis. Moi, je ne vais pas voler leur éclat à ce couple. Je pense que ça nous enseigne quand même beaucoup de choses sur qui est Jésus. Et en même temps, il ne va pas laisser ce couple, cette nouvelle famille, dans une situation qui les laisserait dans la honte perpétuelle. Il va résoudre leurs problèmes pour eux. Il va résoudre leurs problèmes. Mais il va le faire d'une manière qui honore leur mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Après que le maître de cérémonie a goûté ce vin et qu'il a été voir le marié et qu'il a dit tout le monde sert d'abord le meilleur vin et toi tu as gardé le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qui s'est parlé là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On ne sait pas. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé après cela. Mais moi, dans ma tête, j'imagine, c'est assez facile d'imaginer ce qui aurait pu se passer. Le marié dit, mais de quoi tu parles? On a en effet servi le meilleur vin en premier. Et le maître de cérémonie, l'organisateur, il dit, non, ce vin est 1000 fois meilleur que le premier. Et le marié dit, mais donne-moi-en un peu que je goûte. Et il goûte. Et là, il se dit, j'ai jamais goûté un vin comme ça. On dirait que ce que j'ai acheté, le meilleur du vin disponible, c'était de la piquette comparé à cela. Mais ça vient d'où, ce vin incroyable? C'est les serviteurs qui me l'ont amené. Les serviteurs, où est-ce que vous avez chopé ça? C'est Jésus qui me l'a donné. Jésus. Alors le marié va voir Yeshua, va voir Jésus. Et qu'est-ce que je peux dire? Pourquoi?
What?
Merci, mais je comprends, je comprends pas. Et Jésus a peut-être paraphrasé, redit une autre prophétie du livre d'Ésaïe. Venez, tout le monde qui a soif, venez aux eaux, celui qui n'a pas. Pas d'argent, venez manger et boire, venez manger du pain et du lait sans argent. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne satisfait pas? Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises. Et Jésus offre cette invitation au marié et lui dit : Viens, que ton esprit puisse vivre.
C'est une incroyable histoire.
C'est incroyable ce moment incroyable, ce mariage auquel Jésus a pu assister. Il y aurait des grands événements aussi auxquels Jésus a choisi de réellement montrer qui il était. Il n'a par exemple jamais été à un enterrement où il ne s'est pas montré absolument incroyable. C'est sûr que quand tu vas à un enterrement et que la personne, elle revit, elle revient à la vie, ben oui, les gens s'en souviennent. Mais là, ici, il a choisi d'honorer ce mariage en montrant qui il était, mais sans prendre toute l'attention sur lui. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'entendre cela aujourd'hui? Je pense qu'il y a trois raisons. Premièrement, il est dit que ses disciples ont vu cela et ont cru. Jean dit que tout ce qu'il a écrit, il l'a écrit pour que toi tu puisses croire que Jésus est le Messie. Et qu'en croyant cela, tu puisses avoir la vie éternelle en son nom. Et alors une des raisons pour laquelle nous regardons ce passage aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous appelle, certains d'entre vous, aujourd'hui, à dire oui à Jésus pour la toute première fois. De dire, Jésus, tu es le Sauveur, tu es le Fils de Dieu. Tu es réellement mort sur la croix pour mes péchés et je veux te suivre jusqu'au bout de ma vie, jusqu'à mes derniers jours. Ça, c'est peut-être la première raison. Il y a une deuxième raison. Il y a certains d'entre vous ici aujourd'hui qui sont beaucoup comme le couple de mariés.
Ils
sont peut-être comme ce couple. Vous avez fait vraiment de votre mieux. Vous avez tout donné. Vous avez fait de votre mieux dans la vie. Et vous n'avez plus de vin. Et vous ne pouvez plus rien faire. Et vous n'avez plus rien à offrir. Je ne sais pas ce que c'est, votre situation particulière. Peut-être que c'est une situation de couple, de mariage, et votre mariage n'a plus de vin. Votre relation de couple. Ou peut-être que vous êtes marié et vous avez des enfants, et l'éducation de vos enfants, c'est vraiment difficile et franchement tellement de travail. Et vous n'avez plus de vin. Vous n'avez plus rien. Peut-être que c'est votre boulot, votre travail. Peut-être que c'est même pas quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment mettre le doigt. Mais vous êtes complètement empty, sans rien, vous êtes vide. Jésus veut toucher votre sécheresse. Jésus veut rendre ta sécheresse devenir une fontaine qui a plein d'eau. Jésus veut être au plein centre de ta vie. Il veut venir à ton mariage et tourner l'eau en vin. Si vous faites partie de l'un de ces groupes, que vous êtes quelqu'un qui veut accepter Jésus pour la première fois, ou bien quelqu'un dont la vie est vraiment à sec, je veux vous inviter dans quelques minutes à aller ici derrière dans la pièce et parler avec ou prier avec des personnes qui font partie de cette équipe de prière. C'est pour cela qu'ils sont là. Ils sont là pour prier avec vous. Ashwini, elle fait partie de notre équipe de prière. Vous pensez que peut-être Jésus a peut-être rendu de l'eau en vin dans sa vie? Bah oui. Elle aurait grand plaisir à prier avec vous. Si vous faites partie de l'un de ces deux groupes, je vous encourage vraiment à prier avec cette équipe de prière qui est là pour cela. Il y a une troisième raison, un troisième groupe. Et vous êtes là aujourd'hui, et vous suivez Jésus, vous êtes disciple. Et toi, tu es aujourd'hui ici, Jésus m'a rendu, m'a changé mon eau en vin, ça je sais. Je sais ce que c'est d'avoir le Saint-Esprit en moi. Toi, tu comprends ce que c'est tout cela. Et toi, tu es plein à craquer de ce vin délicieux et tu vois des personnes autour de toi qui sont comme ce couple au mariage qui sont à sec. Ils n'ont plus de vin. Et moi, je veux te lancer un défi. Si tu fais partie de ce troisième groupe, je veux te challenger à être comme Marie. Qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a été voir Jésus et elle a parlé à Jésus de ce problème. C'est la première chose qu'elle a faite. Alors, je veux te lancer le défi de prier, de voir Jésus, d'aller auprès de lui et de lui parler de ceux qui sont dans ta vie, qui sont à sec, qui n'ont plus de vin, qui ont besoin de cette marque de Jésus, de son toucher dans leur vie. Et après, d'avoir le cœur de Marie et de dire, fais quoi qu'il te dit, quoi qu'il te demande, fais-le. De quelque manière que Jésus veut s'impliquer dans cette situation, fais exactement ce qu'il te demande de faire, d'accord? Priez avec moi. Père, merci. Merci tellement pour cette histoire, cette partie de notre histoire, cet événement historique. Quel événement qui change la vie quand même. Que toi, tu nous invites à participer à un miracle comme celui-ci. Seigneur, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas. Je prie qu'ils puissent apprendre à te connaître, qu'ils puissent sentir ta main dans leur vie, qu'ils puissent te demander de venir, d'entrer dans leur vie, qu'ils puissent ouvrir leur vie à toi. Et pour ceux qui sont ici, qui se sentent à sec, je te demande, Seigneur, que tu puisses les remplir à débordement de ton esprit. Pour le reste d'entre nous, je te demande que tu nous rendes comme Marie, que nous puissions être des personnes de prière, des personnes d'obéissance, que nous puissions voir le monde autour de nous transformé par ta main guérissante et puissante du salut. Au nom de Jésus. Amen.